radio Okapi. Okapi.
Okapi service. Jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Salubrité publique, quelle est la place de l'éducation environnementale dans le changement des mentalités? Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limité, ici à Kinshasa, sera notre invité dans les minutes qui suivent. Des questions et préoccupations, composez déjà le 086-341-2871. Écrivez-nous à service@radioocapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de votre magazine au Capi Service. David Moussangou, Esther Mamboté, John Chibouaboua, Paul Badianyama et Jody Daniel Kachama au micro. Toute l'équipe est mobilisée pour vous servir. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Au Capé. Au Capé.
Bien, salubrité publique, quelle est la place de l'éducation environnementale? De nombreuses villes du pays sont plongées dans l'insalubrité depuis plusieurs années. Malgré de nombreuses opérations comme le Salongo, initié pour assainir nos milieux, l'insalubrité persiste. Les immondices jonchent les rues et remplissent les caniveaux. Des mauvaises odeurs sortent de partout à cause de la saleté. Pour de nombreux experts, la pauvreté généralisée rend difficile l'accès à l'hygiène des bases pour de nombreux habitants. Les conséquences sont graves, maladies, pollution et une qualité de vie altérée. Par ailleurs, le faible niveau d'éducation environnementale favorise l'insalubrité dans nos milieux de vie. Et pourtant, tout Congolais a droit à un environnement sain d'après la loi de 2011. Quelle est donc la place de l'éducation environnementale dans le changement des mentalités pour un environnement assaini? On en parle aujourd'hui dans cette émission au Capi Service. Nous allons recevoir dans quelques instants le monsieur Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limété, et en ligne monsieur Alain Parfait Ngoulungou, qui est expert en environnement. Il sera avec nous dans quelques instants. Des questions et préoccupations, composez le 086-341-2871. Appelez-nous à ce numéro pour nous dire pourquoi la saleté, pourquoi toujours votre quartier, votre commune ou la ville est toujours sale. Qu'est-ce qu'il faut? Comment éduquer les gens pour que les choses changent? Voilà, certains nous ont écrit pour dire que bon, l'usage du fouet, voilà, est important pour ramener les gens sur le droit chemin. Est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Eh bien, appelez-nous pour nous le dire au cours de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Ouais, bien, donc vous pouvez également nous écrire à service@radioocapi.net. Nous allons accueillir nos invités dans quelques instants. On va commencer avec Alain Parfait Ngoulungou, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, qui est expert dans le domaine de l'environnement et du climat, qui nous dira comment renforcer l'éducation environnementale pour un changement de mentalité dans nos quartiers par rapport à l'assainissement de milieux. Monsieur Alain Parfait Ngoulungou, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes expert en...
Bonjour, monsieur.
Vous êtes expert en environnement à l'imparfait. Nous parlons de la place de l'éducation environnementale pour avoir, pour assainir nos villes, parce que depuis très longtemps, nos villes sont plongées dans l'insalubrité. Alors, comment renforcer les... Quelle est la place de l'éducation environnementale dans les changements des mentalités pour avoir des villes assainies?
Oui, merci pour la question. L'éducation environnementale a un grand rôle à jouer dans les changements des mentalités, dans la mesure où, face au développement des changements climatiques de manière particulière, l'éducation revêt une importance très capitale pour mobiliser les communautés à faire face à ces fléaux, mais aussi pour les engager dans l'action climatique de manière à répondre justement aux challenges que posent les effets néfastes des changements climatiques.
Bien, et comment doit être menée cette éducation environnementale?
Il est clair qu'il faut utiliser tous les canaux et outils de communication, notamment les médias, et de manière particulière les radios rurales en ce qui concerne les communautés riveraines, par exemple aux aires protégées ou aux concessions forestières des communautés locales. Il faut absolument passer par ces instruments-là de communication en vue de mobiliser et sensibiliser les communautés aux questions afférentes au changement climatique.
Voilà, donc passer par les médias, des campagnes de sensibilisation. Prenons le cas de la ville de Kinshasa aujourd'hui, qui est dans les salubrités. Il y a même une task force qui a été mise en place pour assainir la ville. Mais certains estiment que cela doit être accompagné d'une éducation, une sensibilisation à grande envergure.
Bien sûr, pour le cas de l'assainissement, c'est une autre composante aussi de l'environnement. Mais en ce qui concerne l'assainissement, l'éducation environnementale doit revêtir des phases qui sont en mesure de commencer d'abord par informer le public sur les conséquences de l'insalubrité publique, par exemple, mais aussi leur démontrer l'importance de s'engager pour combattre ces fléaux-là ensemble avec les pouvoirs publics. Et donc, pour le cas du test force mis en place, qui est une bonne chose par ailleurs, mais il va falloir être accompagné par un processus d'information publique par rapport aux conséquences de l'insalubrité qui cause maladie, par exemple la malaria, qui cause le choléra. Et donc, ce genre d'informations doivent parvenir déjà au public pour les sensibiliser sur l'importance même de l'éducation environnementale dans le cas de l'assainissement.
Prenons le cas de la ville à Kinshasa où vous trouvez quelqu'un, par exemple, en train de jeter les déchets ménagers sur la voie publique, vous l'interpellez et la personne vous dit Nimiango, est-ce que Yonde Mutobongi Sambokao?
Ben oui, mais parce que généralement les gens ne sont pas informés sur le travail que font les pouvoirs publics dans le secteur de l'assainissement. Ils pensent que c'est le rôle appartenant seulement au gouvernement, au pouvoir public de pouvoir enlever les ordures, par exemple. Or, le public, les citoyens, j'allais dire les citoyens, doivent être impliqués dès la base de cette activité-là pour assainir la ville de Kinshasa. Et donc, dès lors, il faut leur amener l'information, qu'ils soient à mesure de les sensibiliser, de les conscientiser sur l'importance même de cet engagement citoyen-là à opérer dans le secteur de l'assainissement public.
Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui pensent qu'avec les adultes, c'est déjà mort, donc il n'y a plus d'espoir? Il faut plutôt éduquer les enfants, les élèves qui sont encore à l'école aux bonnes manières, aux bonnes pratiques d'hygiène.
Oh non, je ne crois pas penser de cette manière-là. Vous savez, le changement social doit atteindre toutes les couches sociales, des enfants jusqu'aux adultes. Et donc, il faut les impliquer, il faut maintenir cette pression-là de l'information publique à toutes les couches sociales, non pas seulement aux enfants, mais les adultes, là, ils sont vivants, ils sont pas morts. Ce sont des êtres, ils sont actifs, ils sont en train de produire les déchets. Il faut mettre en place des outils, si vous voulez, des tranches, des missions qui soient en mesure d'atteindre et les enfants et les adultes pour amener un changement social et améliorer notre vie quotidienne ici à Kinshasa. Parce qu'il faut l'avouer que la manière dont nous vivons ici à Kinshasa laisse à désirer, avec l'insalubrité qui a atteint le paroxysme. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut atteindre toutes ces couches-là de la population.
Et quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la sensibilisation ou de l'éducation environnementale? Comment ça se passe aujourd'hui?
Malheureusement, elle est très faible, cette sensibilisation environnementale. Et ce sont des sujets qu'aborde très peu l'état public chinois, malheureusement. Donc, il faut absolument activer cette communication-là au public pour les ramener à procéder justement au changement social.
Bien. Et au niveau des structures chargées de l'environnement, des experts, quels sont les efforts qui sont déjà fournis dans ces secteurs?
Oui, il y a plusieurs efforts qui sont fournis. Il y a un réseau au niveau d'Afrique centrale de communicateurs pour l'information environnementale en Afrique centrale, RESTEAC, dont l'une des antennes fonctionne ici à Kinshasa. Il regroupe à peu près plus de 100 journalistes qui consacrent leurs éditions à l'environnement. Et donc, il est très important de pouvoir collaborer avec les pouvoirs publics à travers les médias spécialisés pour mobiliser justement les citoyens sur les faits de l'environnement, mais aussi liés au changement climatique.
Bien, nous parlons du rôle de la diaspora congolaise dans les... la salubrité publique, quelle est la place de l'éducation environnementale? Je vais rapidement lire la question de M. Louembwe ou la réaction de M. Louembwe depuis le Lualaba. Il nous dit ceci, le seul problème de la pérennité de l'insalubrité, pas seulement chez les Congolais, mais une similitude chez tous les peuples noirs, c'est un problème de mentalité, car des fois, là où nos semblables se retrouvent malheureusement, les saletés se retrouvent un peu partout. Et c'est un constat bien réfléchi. Pour nous, accoutumés à la salubrité, commençons d'abord par assainir nos cerveaux. Le seul problème de la voilà ce que nous propose M. Louembwe. Pour nous, comme on est accoutumé à la salubrité, il faut commencer d'abord par assainir nos cerveaux. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, M. Alain Parfait?
Oui, je crois que M. Louembwe a tout à fait raison. Il est vraiment impératif actuellement de pouvoir associer toutes les parties prenantes à cette campagne de sensibilisation, que ce soit les entreprises privé ou public, les ONG locales, l'administration publique, ainsi que les communautés urbaines pour faire face à ces fléaux de l'insalubrité publique, particulièrement dans nos villes.
Voilà, mais les changements de mentalité, certains disent que c'est pas une chose facile, ça prend du temps pour amener les gens à changer de mentalité.
Tout en reconnaissant que c'est un processus, mais je crois que si le pouvoir public a la bonne volonté, on peut atteindre les résultats escomptés dans un délai vraiment imparti. Les cas, par exemple, de la Test France, vous voyez déjà partie de la Tchangou, du district de Tchangou, l'ancien district de Tchangou. On voit déjà des résultats palpables sur le terrain. Le long, par exemple, de Pascal à Kingasani, vous voyez déjà, il y a quand même une nette volonté de pouvoir changer les choses. Donc, oui, absolument.
Mais est-ce que l'usage du fouet, par exemple, peut accompagner la sensibilisation, l'éducation environnementale, ou disons la contrainte,
Étant défenseur des droits humains, je crois non, parce que vous savez, il faut respecter les droits de la personne humaine, quelles que soient les dévies commises. Je crois qu'il y a plusieurs autres méthodes que l'on peut utiliser pour ramener de l'ordre. Je crois que le fouet a ses conséquences aussi sur le plan de la dignité humaine. Je crois qu'il faut respecter les droits de l'homme et il faut absolument voir dans quelle mesure d'abord impliquer ces communautés-là riveraines qui versent des déchets sur la rue et les faire, les conscientiser. Et puis bon, le reste ira comme on dit, de la roulette. Et donc, utiliser les fouets, pour moi, je trouve que c'est vraiment inacceptable.
Alors, quand vous parlez de la campagne médiatique, or, il y a certaines personnes qui ne sont pas tout le temps sur les médias, dans les communautés, comment les atteindre pour faire passer le message et arriver à un résultat satisfaisant?
Non, je disais, il faut utiliser tous les moyens, tous les outils possibles. Vous avez, par exemple, des panneaux géants que l'on peut utiliser, qui est visible pour tout le monde qui peut lire. Les scénettes, les Kinois aiment bien les théâtres, vous pouvez passer par ces acteurs-là. Les acteurs de théâtre, vous pouvez passer par la chanson, les quinoa sont chrétiens, pouvaient passer par les églises. Ah, vous voyez, nous avons au moins dans chaque rue plusieurs églises. Donc ce sont là les outils que l'on peut utiliser pour atteindre les maximums de quinoa afin de renverser la tendance actuelle d'insalubrité. Mmh. C'est l'un des moyens vraiment par lesquels on doit passer si on veut atteindre l'âge.
Allô?
Oui, allô, je vous écoute.
Bien, M. Blaise Saïd nous a écrit depuis la ville de Kisangani. Il dit, à mon avis, la sensibilisation devrait être renforcée dès l'école et soutenue par des campagnes permanentes de sensibilisation afin de changer durablement les mentalités. Quelle est la place de l'éducation environnementale dans la lutte contre l'insalubrité en RDC? Pourquoi les opérations d'assainissement comme le Salongo produisent-ils des résultats limités? Alain Parfait.
Oui, le Salongo a été, c'est un avis personnel, malheureusement négligé par les différents régimes qui se sont succédés parce que ils ont trouvé en cette activité comme une œuvre d'un régime donné, alors que c'est une activité populaire que l'on devrait soutenir parce que ça rassure, ça assure l'implication de toutes les couches de la population congolaise, si vous voulez, et quinoise de manière particulière. Et donc nous avons pu négliger cela. C'est une activité qui n'est pas soutenue financièrement par les pouvoirs publics, qui n'est pas systématisée, j'allais dire, malheureusement. Donc elle pouvait être qu'une activité, appuyée par la police nationale, qui est une opportunité pour elle de pouvoir racketter les paisibles citoyens, les boutiques et les échoppes ici et là. Donc moi je trouve que c'est une opération, c'est une activité qui doit être systématisée et même révalorisée actuellement pour être efficace et apporter des résultats escomptés.
Bien, Alain Parfait, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de commencer, Blaise est revenu sur l'idée de commencer l'éducation au niveau des écoles, parler des enfants, aux enfants de la propriété de l'assainissement.
Je crois que c'est une chose déjà faite, parce que la réforme du programme scolaire que nous avons entamé il y a quelques années intègre déjà l'éducation à l'environnement comme une matière dans les cycles, si je ne me trompe pas, maternelle et voire même primaire. Mmh. Et donc, je crois que c'était c'est déjà sous ce plan-là, pris en charge par l'éducation environnementale. Et on espère bien que cette génération sera déjà rodée par les faits environnementaux qui sera déjà intégré même dans leur comportement et les enfants pourront commencer à observer cela attentivement.
Bien, Monsieur Alain Parfait Ngulungu, expert en environnement, nous vous disons merci, excellente journée et à la prochaine.
Avant de vous dire un grand merci, Monsieur Jody.
Bien, nous parlons de la salubrité publique. Quelle est la place de l'éducation environnementale dans les changements de comportement, changement de mentalité pour un environnement assaini? Nous avons l'honneur de recevoir à présent Monsieur Isaac Mukendi. Il est le bourgmestre adjoint de la commune de Limété ici à Kinshasa. Monsieur Mukendi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Daniel et merci encore de me convier et toutes mes excuses à tous nos auditeurs parce que nous étions retenus par ceux qui sont les acteurs de l'incivisme routier, parce qu'on parle ici de l'éducation et je pense que si les chauffeurs nous entendent, je pense qu'il est aussi important de pouvoir avoir une éducation routière, c'est très important.
Ah oui, c'est. Alors revenons à l'insalubrité.
Oui.
Aujourd'hui, nous avons la task force qui travaille à Kinshasa. Déjà, nous voyons du côté de la Tchangou, il y a des résultats satisfaisants, mais certains experts estiment que si on doit aussi au même moment renforcer l'éducation environnementale. Quel est votre avis à ce sujet?
Bon, je pense que c'est chaque État ou chaque pays s'adapte par rapport aux réalités de l'heure. Mmh. Aujourd'hui, il est d'une évidence bien évidente que Kinshasa appelle à des grands remèdes parce que l'insalubrité chronique qui sévit aujourd'hui est un grand mal qui nous ronge tous. Et je veux vous rappeler qu'en 2024, moi j'étais de ceux qui avaient pensé qu'il fallait décréter en ce temps-là. Il était, je pense que c'était au mois d'avril 2024, où je pensais que l'insalubrité à Kinshasa, autant pour la Covid, par exemple, qui avait été un des mâles qui avait rongé notre capitale, enfin notre pays dans son entier, nécessitait à ce que l'on puisse décréter un état d'urgence sanitaire. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que l'insalubrité à Kinshasa devrait appeler au chef de l'État à pouvoir décréter un état d'urgence sanitaire pour que nous soyons dans une situation exceptionnelle où l'on prendrait des mesures exceptionnelles pour assainir de fond en comble notre capitale. Aujourd'hui, le chef a répondu différemment en mettant en place une task force, bien sûr, qui est coordonnée par, supervisée par lui-même et coordonnée par ceux qu'il a désignés, notamment le général Kasongo Kabwik, qui est une réponse, on va dire, un peu corollaire à ce que nous avions pensé autrefois. Aujourd'hui, les résultats sont probants. Vous parlez de Tchangou, je vous annonce qu'ils sont déjà à Gombe, parce que pendant que je venais, j'ai vu que au niveau de la gare centrale, le coordonnateur adjoint, le conseiller David Moukeba, était déjà sur terrain avec les équipes du service national pour commencer les opérations. Sur la boue de la Gombe. Nous, à Limété,
c'est l'écurage, il commence par l'écurage des canibaux, c'est
bon,
ça?
Bon, moi, j'ai vu le balayage avec certains des outils déjà en place. Je pense peut-être qu'en retournant, je pourrais voir s'ils sont aussi concernés par le curage. Et chez nous, à Limété, ils sont déjà présents depuis plus d'une semaine. Et nous sommes le plus heureux, d'ailleurs, parce que le quartier général de cette task force sera chez nous. Les engins dont ils vont devoir utiliser et tous les moyens opérationnels en leur possession seront logés à Limété, précisément le long du boulevard au niveau de la 13e rue. Oui. Donc nous en serons quand même le plus grand bénéficiaire, je parie.
Mais est-ce qu'au niveau de la commune, vous avez une brigade chargée essentiellement
avons une brigade qui existe d'ailleurs depuis que nous sommes arrivés à la tête de la municipalité, mais fort malheureusement, nous fonctionnons avec les moyens de bord. Je ne veux pas vous rappeler les difficultés que rencontrent les communes de l'ensemble de la République en ce moment, puisque nous travaillons avec moins de 50% de nos recettes qui sont légalement établies, parce que la loi sur la décentralisation et même la loi sur les finances publiques recommandent au pouvoir central et même au gouvernement provincial de nous allouer des fonds de rétrocession qui constituent plus de 60% de notre budget global.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Limité, tout comme toutes les autres communes de la capitale, en souffrent. Et donc nous sommes amputés, d'une grande partie de nos moyens, ce qui ne nous permet pas à pouvoir répondre efficacement aux besoins de nos populations. Mais nous essayons de faire le minimum. À Limité, par exemple, nous avons cette brigade composée d'à peu près 100 brigadiers qui s'assurent au moins de mettre la propreté sur les artères principales de la commune.
Limité à l'époque était réputée parmi les communes les plus propres. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui?
En effet, avec la flambée démographique, aujourd'hui Kinshasa, le nombre n'est plus à compter. L'exode rural criant et que nous remarquons tous nos compatriotes qui quittent l'intérieur du pays pour venir à Kinshasa, et la plupart s'établissent à Limité. Ceux qui viennent sur la voie riveraine, tous ceux qui viennent de l'Équateur s'acheminent vers Limité. Et Limité regorge un peu plus de monde aujourd'hui. Vous avez parlé des Pakajuma, bon, qui fort heureusement a été, on va dire, déballé parce que ces sites n'existent pratiquement plus sur Limité avec les travaux entrepris par l'ONATRA. Et donc, c'est cet exode rural, cette flambée démographique qui fait en sorte que il y a plus de consommateurs des denrées, des biens de consommation, et ça produit des déchets, et c'est la commune qui en pâtit avec les déchets qui jonchent nos rues.
Mais est-ce que vous avez, au niveau de la commune, vos propres véhicules qui s'occupent qu'on utilise pour le ramassage, des poubelles un peu partout, est-ce que tout ça, ces dispositifs est en place?
Nous avons reçu une dotation du gouvernement provincial, parce qu'il faudra se le connaître, qui fournissent quand même des efforts. Oui. L'actuel gouverneur Daniel Bumbalouba, qui avec le programme Kinshasa Ezobonga, dans le cadre de ce programme, nous a doté pour chaque commune au moins un véhicule BEN. Mais ces véhicules rencontrent quand même certaines difficultés parce que il y a certaines pièces de rechange qu'on ne sait pas trouver ici sur le marché local et qui demandent qu'on puisse les commander ailleurs. Donc dans certaines communes, ces véhicules ne sont pratiquement plus fonctionnels. Et à Limité, quand même, nous forçons avec celui que nous détenons, avec les difficultés qui s'imposent pour que nous puissions au minimum assurer la propriété dans nos entités respectives.
Bien, on peut bien avoir les véhicules, le personnel, mais le grand problème, c'est au niveau des cerveaux, des mentalités. Comment arriver à changer les mentalités des Quinois, pas seulement des Quinois, mais de toute la population, par rapport à la salubrité?
Alors, moi, je vais vous dire une chose, monsieur Jody. je vais d'abord vous poser une question. Je sais que vous, les journalistes, on vous pose naturellement pas de questions.
Nous, on n'aime pas les questions.
Que vous puissiez me répondre.
On pose les questions.
Entre la vérité qui choque et les mensonges qui rassurent, que voulez-vous?
Bon, je repose la même question.
Moi, je vais vous donner la vérité qui choque.
Oui.
Aujourd'hui, avec les mentalités quinoises, il est vrai, on l'a même vu avec les débuts des travaux du service national,
oui,
qu'apparemment la coercition fonctionne mieux que lorsqu'on parle, que lorsqu'on conseille.
Faut le fouet.
Par là.
L'usage du fouet.
Vous avez compris effectivement ce que je voulais dire entre les lignes. Mais aujourd'hui, il est regrettable de voir que, malgré l'existence des lois, malgré la sensibilisation que nous faisons, nous, en tant que pouvoir public, nos populations sont clairement habituées à un mode tout autre. C'est-à-dire une coercition beaucoup plus explicite avec notamment le fouet, vous avez cité ici. Et parfois, j'ai vu certains à qui on a donné des travaux forcés, c'est-à-dire tu jettes par terre les ordures et on t'attrape, on te recommande d'aller travailler avec
toute la journée avec la
national, oui, parfois toute la journée. Des méthodes qui sont, à mon sens, parce que je suis juriste, je ne devrais pas le refuser, qui sont illégales, on va dire, d'une certaine manière. Voyez-vous. Mais nous sommes dans une situation où la population...
Les gens sont habitués à la saleté.
Non seulement habitués à la saleté, mais sont habitués à ce qu'on puisse en arriver à ce point-là pour qu'ils puissent comprendre que la salubrité tue des vies. Parce que lorsque vous jetez des immondices dans les caniveaux et que l'eau, par la suite, ne sait pas circuler normalement, c'est eau. C'est des vers sous la chaussée et même rentre dans les habitations. C'est ce qui crée des inondations.
Il y a des moustiques, des morts
d'hommes et ça crée beaucoup plus de dégâts. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous arrivions à réfléchir. Est-ce qu'il faudrait que nous gardions les mêmes lois? Est-ce que nous puissions garder les mêmes méthodes ou il faudrait adapter les méthodes par rapport aux appréhensions de nos concitoyens? Moi, je pense que il faudrait que la task force, je recommande, je pense que certainement l'autorité première, le chef de l'État pourra comprendre ce qu'au-delà, bien sûr, des missions qui sont assignées à la task force, si l'on peut, par des mécanismes exceptionnels, associer aussi la police judiciaire pour que ceux qui sont interpellés des suites puissent être conduits directement devant les OPJ à compétences soit restreintes, ceux de l'environnement ou même des compétences à compétences élargies, pour que ceux-là soient directement sanctionnés et qu'il y ait même des peines d'amende spécialement établies pour ces types d'infractions. C'est vrai qu'il existe la loi sur les principes généraux portant protection à l'environnement. Il existe des édits provinciaux en matière de protection d'environnement. Mais je pense qu'il faudrait qu'au niveau de cette task force, qu'on prenne des mesures qui soient exceptionnelles, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, pour du moins sanctionner ceux-là dont les faits sont flagrants, on les attrape en flagrant délit, pour qu'ils puissent être sanctionnés, pas seulement par des travaux forcés, mais peut-être par des peines d'amende sévères, pour que ça soit intégré dans notre mentalité, que l'insalubrité...
Mais certains disent qu'avant de sanctionner, il faut sensibiliser.
Cette opération de sensibilisation, nous l'avons déjà faite. Il est devenu une habitude pour nous, chaque samedi, moi et ma titulaire, Mme Nathalie Alamba, fait ça de nous retrouver dans les rues de notre commune, dans les quartiers de notre commune, pour sensibiliser nos populations contre l'insalubrité, contre la mauvaise gestion des déchets et même contre la pollution sonore, parce que l'environnement aussi est pollué, pas seulement par les déchets, mais par les nuisances sonores. Nous sensibilisons notre population, certains même nous les interpellons, mais à notre niveau, je pense qu'il y a certaines limites légales qui ne nous permettent pas d'arriver au-delà. Aujourd'hui, nous avions le service national, et d'ailleurs qui travaille des concerts avec les municipalités, s'il est possible que l'on puisse adapter les mesures par rapport aux mentalités de notre population. Et je pense que c'est le moment de le faire.
Il semble que les mentalités ne changent pas d'un jour à l'autre, ça prend du temps.
Oui, mais c'est un début. Parce que ces 2-3 vidéos, ces 2-3-4 séquences vidéo que nous avons vues sur les réseaux sociaux produisent des effets. Aujourd'hui, à l'immédiat, les gens réfléchissent pour jeter les immondices par terre. Ils commencent à chercher la poubelle qui était souvent à son endroit habituel, mais que l'on ne voulait pas voir. Certains qui avaient pour habitude de traverser sur le boulevard alors qu'il y a une passerelle, dès du moment où ils ont vu qu'à Tchangou, il y a certains qui avaient été interpellés parce qu'ils ont marché sur la chaussée à des lieux non indiqués, ils commencent à prendre la passerelle. Donc je pense que la société évolue, s'adapte, ou les lois s'adaptent par rapport aux évolutions qui sont vécues dans la société. Si les mesures actuelles ne sont pas adaptées aux mentalités, il faudrait les revoir, adapter celles qui peuvent contraindre les populations à pouvoir s'adapter à cette nouvelle façon de faire, à ce que notre environnement soit garanti et qu'il soit propre.
On va accueillir Thomas Ougueni depuis la ville de Kisangani. Monsieur Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur Jobu. Et bonjour, une fois de plus, à l'invité ici qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi, monsieur Tati Jodi. Je pense, monsieur Tati, l'éducation environnementale, c'est le point de départ du changement de la mentalité, monsieur Jodi. Et pour moi, on doit commencer par là, parce qu'elle permet en tout cas de penser d'une population qui a subi les salubrités à une population consciente, monsieur et monsieur Jodi. Une population consciente, responsable et engagée dans la construction d'un environnement sain et durable, monsieur Tati. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur, à ce qui est des pistes et des solutions face à ces problèmes qu'on est en train d'observer partout à travers les villes de la RDC. À part la sensibilisation, il y a également, monsieur Jodi, les changements de comportement. Parce qu'avec les changements de comportement, elle permet en tout cas à nous, ça nous encourage là d'adopter des bonnes pratiques, telles que par exemple l'utilisation des poubelles publiques, monsieur Jodi. Si on n'a pas de poubelles publiques, où doit-on jeter les déchets là? Ça pose des problèmes, ça c'est le rôle de l'État. Dans un milieu, la planification ou l'aménagement, la planification eh bien, doit être là, parce que lorsqu'il y a la planification, il y a des endroits où il y a des poubelles publiques qu'on est en train d'ériger par-ci, par-là, à travers la ville. C'est-à-dire le changement de comportement, ça passe également par l'adoption de bonnes pratiques telles que l'utilisation des poubelles publiques et autres choses pour conserver en tout cas les déchets et les ramener à un autre endroit, parce que ces déchets-là, ça pourra être également utile pour on peut les recycler, parce que ça peut servir également à d'autres choses.
Merci beaucoup.
Il y a aussi la responsabilité.
Merci beaucoup.
Je cite par ceci. Je cite par des questions, alors, si vous permettez, monsieur Jodi,
alors,
la première question.
Laquelle?
Quelles sont en tout cas les mesures d'accompagnement de l'éducation environnementale pour garantir, en tout cas, de l'éducation environnementale, pardon, pour garantir l'environnement assaini? Quelles sont en tout cas les mesures d'accompagnement qui est là pour encourager ou qui peut venir en aide à l'éducation environnementale? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai parlé ici de l'éducation environnementale. Est-ce que l'éducation environnementale à soi suffit également-elle pour lutter contre ces phénomènes-là de salubrité? Est-ce que c'est réellement, à part l'éducation environnementale, où
merci.
Ça montre ses limites,
merci
est-ce qu'il y a
beaucoup.
D'autres pistes de solutions?
D'accord. C'est noté, monsieur Ougueni, merci beaucoup. Honoré Tshibwabwa, vous êtes en Bougimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur, bonjour, invité.
Oui.
Vous m'écoutez?
Oui, on vous écoute, monsieur Tshibwabwa. Allez-y.
Oui, beaucoup est déjà dit sur la question des sensibilisations et d'éducation. Mais moi, je pensais que les autorités, nos autorités pouvaient prêcher aussi par exemple. Parce que la question des salubrités ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa, même ici à la ville de Mbujimayi, nous sommes victimes de cette question ici. Vous allez trouver que il y a des communes, hein, je vous dis, vous arrivez à la commune, vous trouvez qu'il n'y a pas de poubelles. D'abord à la commune, il n'y a pas de poubelles. Alors, elle devrait d'abord commencer par prêcher l'exemple, mettre des poubelles dans les institutions, dans toutes les institutions publiques, on trouve les poubelles. Dans les universités, les écoles, on oblige les poubelles. Ça pourrait quand même aider la population à comprendre quand même que c'est une question très importante. Parce que vous savez vous-même le niveau d'éducation et le niveau, n'est-ce pas, de vie de notre population. Beaucoup ne sont pas intéressés aux médias et ainsi de suite. Et autre problème aussi, je voulais poser une question à l'invité un peu rapidement. C'est quoi le rôle du service de l'hygiène? Parce qu'à la commune, on voit qu'il y a un service d'hygiène. C'est quoi le rôle de ces services-là? Est-ce qu'ils font réellement leur travail? La deuxième question, il y a une taxe-là qu'on perçoit toujours, taxe hygiène. Cette taxe-là sert à quoi? C'était là mes préoccupations, parce qu'il n'y a pas assez de temps.
Bien, merci. Monsieur Saïdi nous a écrit, dit, à mon avis, l'éducation environnementale devrait être renforcée dès l'école et soutenue par des campagnes permanentes de sensibilisation afin de changer durablement les mentalités. Quelle est la place de l'éducation environnementale? Pourquoi les opérations d'assainissement comme les salongos produisent-elles des résultats limités? Monsieur Lebougouma Moukendi, vous avez la parole.
Alors, merci à nos auditeurs. Je vais commencer d'abord par répondre aux questions et puis émettre un commentaire sur l'éducation environnementale. Je vais prendre la dernière question de notre compatriote de Mboujimaï qui voulait savoir si il existe un service d'hygiène dans les communes. Il faudrait savoir que dans la loi sur les ETD, la loi du 7 octobre 2008, il est prévu du nombre des matières qui relèvent de la compétence de la commune, celui d'organiser un programme d'assainissement et un programme d'hygiène. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Mais dans la pratique, qu'est-ce que nous rencontrons? La loi nous recommande d'organiser un programme d'assainissement que nous avons pu faire. C'est-à-dire, nous avons constitué une brigade pour le cas délimité, nous avons constitué une brigade. Nous sensibilisons notre population sur l'hygiène environnementale. Et lorsque nous allons vers la population, nous sommes butés à une situation. Je pense que je l'ai relevé ici autrefois. C'est que pour que nous assurions un service public, nous devons apercevoir la contrepartie. Donc on ne peut pas demander à un bourgmestre ou à une autorité municipale d'aller évacuer les déchets dans les ménages ou dans les rues sans pour autant apercevoir la contrepartie. Qui dit contrepartie, juridiquement, c'est la taxe.
On parle de la taxe d'hygiène. Quelqu'un parlait même de la taxe
d'hygiène. Oui, la taxe, la taxe d'hygiène. D'environnement et enlèvement des ordures ménagers, même la taxe d'hygiène, aujourd'hui échappe au contrôle des communes. Donc nous ne pouvons pas. Donc c'est une réalité paradoxale. On nous demande d'organiser un programme d'assainissement et d'hygiène, mais la contrepartie qui devrait en découler nous échappe à nous. Alors on ne va pas faire un programme de fête ou quelque chose comme ça. Et puis dans l'opérationnalisation, nous sommes butés à une situation. Et donc aujourd'hui, le programme d'hygiène est piloté par l'hôtel des villes. D'ailleurs, très récemment, ils ont lancé une campagne de sensibilisation de nos communes respectives pour relancer la taxe sur l'hygiène. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons le bon moment que pourra juger le ministre provincial de la Santé afin que nous puissions mettre à profit cette politique d'hygiène et qui passe par un programme d'hygiène ou un programme d'assainissement dans les maisons ou dans les ménages. Alors l'autre préoccupation, celle de notre compatriote de Kisangani qui voulait savoir si les mesures d'accompagnement de l'éducation environnementale suffisent à elles seules pour garantir l'environnement assaini. Bon, moi je dirais non, parce que l'assainissement, tout comme la protection de l'environnement, c'est une série, c'est toute une chaîne. Donc il faudrait que chaque acteur puisse jouer sa partition.
Oui.
Qui dit éducation, dit sensibilisation aussi, parce que lorsqu'on sensibilise, on éduque. Et les acteurs majeurs de l'éducation dans notre société, d'abord l'acteur premier c'est l'école, nous savons que dans les écoles, c'est là que devrait commencer la sensibilisation première, l'éducation sur la protection de l'environnement. Est-ce que dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo, est-ce que le programme national, je pense que les auditeurs pourront répondre, est-ce que notre programme national prévoit spécialement un cours, je sais qu'à notre époque, le cours d'hygiène, ça existait. Je ne sais pas si ça existe toujours. Parce que dans les mentalités même de nos enfants que nous voyons, qui vont dans les écoles, on a comme l'impression qu'ils sont habitués à jeter toujours les ordures dans les rues. Donc je présume, à mon sens, qu'il n'y a plus trop, on accentue plus trop sur la protection de l'environnement, déjà à partir de l'école, et même sur l'hygiène quotidienne pour les enfants. Parce qu'avoir les mentalités de ceux qui sont en train de grandir, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'accentuation.
Il faut renforcer ces cours-là.
Voilà, au niveau du programme national d'enseignement, il faudrait renforcer.
Pas seulement à l'école primaire, même au niveau de...
À tous les niveaux.
À tous les niveaux.
À tous les niveaux. Et je vais vous partager une autre expérience que nous avons vécue à l'IMT avec une société brassicole de la place Apra-Congo que je cite ici, avec qui nous avons piloter un programme de sensibilisation dans les écoles délimitées. 15 écoles délimitées ont été sensibilisées et plus de 50 000 écoliers aujourd'hui sont sensibilisés sur la gestion des déchets et même la protection de l'environnement. Donc vous allez voir des petits enfants là, déjà limités, qui savent déjà où jeter et quoi ne pas jeter. Et parfois même ramène cette sensibilisation dans les maisons, les parents qui ont même témoigné, parce que j'ai pris part au lancement de ce programme, où les parents témoignent que je vois mon petit garçon qui me dit, papa, ici on ne jette pas le plastique, il faut jeter à ce niveau. Si tu jettes par terre ici, ça peut créer tel ou tel autre dégât à la fin. Et donc tous les acteurs aujourd'hui de la vie sociale, pas seulement les écoles, mais les églises, les sociétés, tous doivent s'élancer parce que aujourd'hui, personne n'est à l'abri de l'insalubrité chronique qui sévit dans notre pays.
Avec donc, ses
tous
conséquences,
nous le disons. Oui. Dans les églises, les pasteurs peuvent nous aider parce qu'eux ont la facilité de dire Alléluia et les fidèles disent Amen. Vrai ou faux, ils disent Amen. Alors quand il lui dit j'étais par terre, c'est sale, et que le fidèle dit Amen, je pense que ça pourrait aussi être inculqué dans les têtes des fidèles, surtout que aujourd'hui les Congolais, il n'est de nul doute que nous sommes très attachés à la foi, les chrétiens ou les musulmans, ainsi de suite. Je pense que si les acteurs confessionnels se mettaient aussi en danse, comme on les voit un peu partout aujourd'hui avec ces débats sur les changements constitutionnels, on voit les pasteurs s'impliquer. S'ils s'impliquaient aussi davantage pour que...
Les leaders d'opinion, les musiciens, tout ça,
ainsi de suite. Les influenceurs, comme on le dit sur les réseaux sociaux, ils doivent s'impliquer parce que personne aujourd'hui est à l'abri de l'insalubrité chronique dans notre pays.
Quelqu'un a dit tout à l'heure que la meilleure façon est aussi d'éduquer, c'est de rendre disponibles les poubelles. Parce que quand quelqu'un voit que les poubelles sont là, bon, il peut se dire non, je dois utiliser la poubelle au lieu de jeter la bouteille ou la peau de banane par terre.
En effet, je crois que c'est notre compatriote de Mbujimayi qui a même demandé que nous prêchions par l'exemple.
Oui.
Il peut venir, bon, j'espère quand il sera à Kinshasa, il pourra faire un tour à la maison communale de Limété pour voir, nous avons placé des poubelles. Mais malgré les poubelles placées, parce que généralement, c'est lorsqu'on tombe vers le week-end qu'on reçoit un flux de personnes qui viennent généralement pour les cérémonies des mariages, vous allez voir que, sans s'inquiéter, ceux qui viennent, ils jettent la poubelle, elle est là, à 2, 3 mètres de lui, parfois à 0 mètre, et préfèrent jeter par terre. Et à la fin de la journée, nous avons un amas de déchets
par terre, alors que les poubelles
existent, sont là.
Oui.
Donc, nous pouvons bien prêcher par l'exemple, mais lorsque dans les mentalités, c'est encore incrusté, que facilement on peut jeter quelque chose par terre, je pense que le problème ne sera pas résolu. Donc, je pense que le grand problème, c'est dans la tête d'abord. Parce qu'il arrive que moi, je me retrouve avec des déchets en main, je ne vois pas de poubelle, mais je ne jette pas. Je peux les mettre dans mon sac, dans ma poche, et parfois je rentre à la maison avec plein des ordures, parfois dans la poche, parce que dans l'environnement que j'ai fréquenté dans la journée, je n'ai pas vu de poubelle. Mais je n'ai pas jeté n'importe où. Donc tout doit commencer d'abord par la tête, dans les habitudes, et si les habitudes suivent, je pense que ça va réduire de moins en moins l'insalubrité chronique dans notre environnement.
Et souvent, ce sont les caniveaux qui reçoivent toutes ces saletés, ces bouteilles et tout ça, les caniveaux sont... Il y a aussi un problème, sérieux problème de curage. Hein.
Oui, le curage, pour le faire, nous le faisons à Limété, comme je l'ai souligné tantôt. Mais les caniveaux, nous avons beaucoup de kilomètres de route chez nous à Limété parce qu'il y a plusieurs routes qui ont été asphaltées. Donc, qui dit asphaltage dit aussi des caniveaux. Donc, le faire avec nos moyens des bords, c'est parfois difficile. Mais il nous arrive quand même de cibler les zones qui sont sévèrement touchées par les déchets qui se retrouvent dans les caniveaux afin de pouvoir curer. Mais à nos populations aussi, qui vivent à Limété ou qui vivent de partout ailleurs, ils doivent aussi savoir que dans le Lidi 003 de la ville-province de Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa, il est recommandé à chaque occupant des parcelles à pouvoir assainir jusqu'à 10 mètres de sa devanture. Et donc si chacun de nous... Jusqu'à 10 mètres de sa devanture. Je pense discussion courante, je pourrais vous trouver cette disposition. Donc chacun de nous doit être en mesure d'assurer la propriété devant chez lui. Il ne doit pas seulement attendre que l'État vienne. Et donc si chacun de nous pouvait avoir cette conscience à nettoyer devant chez lui jusqu'à 10 mètres, ou à tous les mois s'il n'a pas la capacité à financer ceux qui peuvent le faire, je pense que ça va de plus en plus réduire l'insalubrité et garantir un environnement propre. Si les caniveaux devant chez vous, qui est parfois même pas à 10 mètres, qui peut être à 2 ou 1 mètre et demi, et curé par l'occupant de la parcelle lui-même, ça va permettre à ce que les eaux puissent circuler, et quand d'un point A jusqu'à un point Z, l'eau circule facilement, ça va réduire aussi les inondations que nous vivons lors des pluies.
Alors vous trouvez quelqu'un en train de jeter les déchets ménagers sur la rue ou dans les caniveaux, vous l'interpellez et il vous dit « bon, yondo obongisambokao ». Ou quand il y a un problème, Tata Mokonzita et la Bisholikamo. Donc, ces mentalités,
pensez-vous... C'est un sale problème de mentalité.
Est-ce que ça peut changer facilement
Oui, c'est ce que j'ai dit. Je pense que chacun de nous est un acteur dans la société. Moi, je suis dans la gouvernance. Je suis un acteur public. Vous êtes journaliste. Ceux qui nous suivent dans nos auditeurs ont chacun de nous une sphère d'influence où il peut dire un mot à quelqu'un et la personne écoute. Dans nos familles,
les parents, au lieu de faire asseoir seulement les enfants pour leur donner des conseils sur l'éducation à la vie, pourquoi pas en profiter pour sensibiliser les enfants sur l'éducation environnementale? Lorsque c'est sale à la maison, leur demander, pas seulement de nettoyer les assiettes ou de nettoyer les habits ou de nettoyer les carreaux, mais aussi nettoyer la parcelle, balayer à l'extérieur, parce que moi je l'ai fait quand j'étais jeune. Il m'arrivait de balayer devant la parcelle, les parents nous le recommandaient, et si les parents, à leur niveau, pouvaient sensibiliser les enfants, je pense que le problème sera quand même résolu à un certain niveau. L'enfant, quand il quitte la maison et qu'il se retrouve à l'école, le même message lui est transmis à l'école. L'enfant, lorsqu'il il quitte l'école, il rentre à la maison, il trouve le même message. Le dimanche, il va à l'église. L'église lui transmet les mêmes messages. Je pense que ça va faire, comme on le dit, un étouffement en termes de sensibilisation dans la tête des quelqu'un.
Un matraquage.
Un matraquage, comme vous aimez bien les dire, les acteurs des médias, pour que ça soit inculqué et que nous puissions sauver quand même les générations qui montent. Parce que nos générations, à nous, vraiment, c'est devenu ceux qui entendent peut-être par le fouet, comme on l'a dit ici.
Donc, mais parfois, si il faut des moyens, des contraintes. Quand les gens ne veulent pas changer.
Lorsque les plus jeunes sont sensibilisés déjà à ces niveaux avec un matraquage d'informations, je pense que ça pourrait être résolu. Je pense aussi que c'est l'occasion de féliciter aussi les églises qui ont déjà emboîté les pas, notamment à limiter l'église d'accompagnement du pasteur Marcelo, qui, chaque mardi, sur la deuxième rue, font des travaux d'assainissement. Et parfois, nous participons même pour les encourager, montrer que le pouvoir public sont à côté de vous pour vous accompagner dans cette démarche. Parfois, nous emmenons même nos engins propres pour essayer ensemble de garantir la propriété sur notre municipalité. Nous appelons aux autres églises aussi de limiter d'emboîter les pas, parce que les fidèles sont nombreux.
Ils sont nombreux.
Oui.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a assez de poubelles dans votre commune?
Les poubelles, nous en mettons... Je l'ai dit à la hauteur de nos moyens, parce que l'Imété, c'est quand même 67 km² et avec une démographie qui avoisine les 500 000 habitants. Nous avons une réputation de ville.
Donc vous voyez 500 000 habitants.
Oui, nous avoisinons les 500 000 habitants aujourd'hui. Et donc nous avons une réputation de ville. Et donc pour une commune qui fonctionne avec un budget qui est amputé de 60%, c'est, si je vous dis les chiffres, vous allez crier.
Si je vous dis les chiffres. Amputé des 60%.
Oui.
Ben vous n'avez
presque pas de moyens. Et dans les 40, il y a certaines recettes ou certaines taxes que nous ne savons pas percevoir aujourd'hui. D'autres encore que nous percevons en concurrence avec certains services ou partenaires qui nous ont été recommandés par l'hôtel de ville, notamment sur la taxe de l'état civil que nous ne percevons pas aujourd'hui en totalité parce que ces partenaires, puisqu'elles nous appuient, nous prend déjà les 50% de cette taxe.
Donc finalement, toutes les taxes vont à l'hôtel de ville. Et comment vous allez fonctionner?
Voilà, nous fonctionnons avec des difficultés énormes. C'est pourquoi j'appelle en tout cas à notre hiérarchie si nous pouvons du moins faire les états des lieux de la décentralisation pour que l'on puisse ensemble étudier comment est-ce que la décentralisation, depuis son adoption, sa consécration dans notre constitution et même dans les lois qui accompagnent cette décentralisation jusqu'à ce jour où nous en sommes. Parce que nous avons des entités, des communes, on veut bien le dire, les bourgmestres qui sont dans les communes mais qui sont incapables.
Qui n'ont pas de moyens.
Qui n'ont pas de moyens, qui sont incapables d'assurer, d'abord de mettre en place leur politique, mais aussi d'assurer la vie paisible des concitoyens. Parce que n'ayant pas de moyens, est-ce que la décentralisation que nous avons sous ces formats, avec les moyens qui nous sont dotés, est-ce que cela équivaut? Donc il faudrait que nous arrivions à nous asseoir pour que nous puissions faire l'état des lieux de ces décentralisations et envisager maintenant d'autres perspectives, notamment inclure des enjeux de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, même l'assainissement, c'est vrai que l'hôtel des villes a essayé, mais n'a pas pu. Aujourd'hui, nous avons les services nationaux. Mais est-ce qu'on va continuer avec les services nationaux de manière pérenne? Parce que c'est une situation exceptionnelle.
C'est ça, exceptionnel.
Après que les déchets soient partis, il reviendra maintenant aux communes de pouvoir assurer la relève ou assurer la permanence ou la continuité. Mais dès lors que nous n'avons pas les moyens de notre politique, ça sera difficile.
Bien. Monsieur Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limété, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est toujours un plaisir et un honneur de me rencontrer face à vous. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis.
À la prochaine.
Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production. David Moussangou, Esther Mambote, John Chibouaboua, Paul Badianyama. Au micro, c'était Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute des programmes sur Radio Capi. À la prochaine.